Voilà, eh bien, nous voici ensemble une quatrième fois. Je dois dire que j'ai beaucoup apprécié de me situer parmi vous à l'occasion de cette assemblée annuelle dont j'ai beaucoup joui, encore que j'ai dû de temps à autre vous quitter pour prendre un peu de repos, étant j'ai été chargé ces derniers temps de réunions. Je forme des vœux de riches bénédictions sur votre union baptiste ici au Québec, que Dieu la bénisse et lui donne de prospérer par l'assistance de son Saint-Esprit en même temps que de sa parole. Avant d'entamer notre sujet de ce soir, je voudrais également remercier de tout cœur le docteur Thompson ainsi que Monsieur Gilmour pour cette invitation qu'ils m'ont adressée de venir ici à Montréal, dans un premier temps pour une série de cours au CT, et puis dans un deuxième temps pour cette journée de votre assemblée annuelle. Un grand merci à ces chers amis, et puis un grand merci à vous tous pour ces marques d'affection fraternelle et de sympathie que vous m'avez témoignées à l'occasion du décès de ma chère maman la semaine dernière. Merci infiniment. Ceci étant dit, nous traitons du sujet de ce soir, une méditation sur le premier, le plus grand de tous les commandements. Et ceci donnera une conclusion, je pense, assez heureuse à tout ce que nous avons entendu depuis hier soir. Et nous introduisons cette dernière rencontre par une lecture se situant dans l'Évangile selon Marc. Au chapitre 12, nous lisons à partir du verset 30e, peut-être même à partir du verset 28e. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda : quel est le premier de tous les commandements ? Jésus répondit : Jésus donc, jouant l'élève en face de ce scribe, Jésus répondit : voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second : tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit : Maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait bien répondu et avec intelligence, lui dit : tu n'es pas loin du royaume de Dieu, voulant aussi lui dire par là : tu n'y es pas du tout, mais tu n'y es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui poser de questions. Ah, le premier de tous les commandements, le plus grand : tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Il se fait très souvent que nous aimions à rappeler tout l'amour dont nous sommes les objets de la part de Dieu, et je pense que nous faisons bien. Oui, nous faisons bien de rappeler tout cet amour que nous continuerons d'apprendre à connaître au cours de l'éternité. Mais il se fait plus rare que nous entendions dire que nous devons aimer Dieu en retour, et d'un amour de premier plan. D'un amour de premier plan. Pourquoi ? Parce que précisément Dieu est amour. On rapporte qu'une fillette qui avait de certaines dispositions pour la peinture et le dessin était allé un jour vers sa maman pour lui dire : maman, je voudrais dessiner Dieu Comment est-il ? Sa maman, qui était chrétienne, surprise par la question de lui répondre, « Écoute, ma fille, tu ne peux pas dessiner Dieu parce que Dieu, c'est précisément ce qu'il y a de plus beau, d'extraordinaire, d'infini, de parfait. Comment veux-tu tenter de le dessiner ? Dieu ne se dessine pas. » Et en écoutant ainsi sa maman, la petite fille, de réfléchir dans sa petite tête et de lui répondre, « Eh bien, maman, si Dieu sait tout cela, je n'essaierai pas de le dessiner parce que si je tentais de le faire, certainement que je lui ferais trop de mal. » Vrai ça, hein ? Dieu est tellement extraordinaire que nous ne pouvons pas même tenter de nous le représenter dans nos esprits. Notre imagination ne peut pas nous donner de nous le représenter, ce Dieu-là. Il est trop grand, trop immense, trop extraordinaire, trop beau. Et sa beauté, c'est sa sainteté. Mais la Bible dit que Dieu est amour, et quand on veut dessiner l'amour, que fait-on généralement ? Quand Alain Chouaki était fiancé, et qu'il écrivait à sa douce Jeanne, c'est aujourd'hui ma femme, hein, et ce depuis 27 ans, afin que vous ne vous posiez pas toutes sortes de questions. Quand nous nous écrivions, alors Alain Chouaki dessinait là, en haut et à gauche de la page, quoi ? Quand on veut dessiner l'amour, un cœur, et parfois j'y ajoutais une flèche, hein, dans ce cœur, parce qu'avec mon épouse, nous avons été séparés longtemps à cause de la guerre d'Algérie. J'avais été envoyé depuis Paris jusqu'en Algérie pour la guerre, et mon épouse était restée à Paris. Nous nous écrivions tous les jours. Combien de vous fiancés ici ? Levez la main, vous êtes fiancés. Une main ? Deux, trois mains, heureusement. Mais c'est quand même peu, vous n'allez pas vous multiplier ici. Hein. Eh bien, pour vous qui êtes fiancés avec mon épouse, enfin avec ma fiancée, il y a un peu plus de 27 ans, nous nous écrivions tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis je dessinais ce cœur. Quand on veut dessiner Dieu, c'est un cœur qu'on peut dessiner. Mais ce cœur-là, bien sûr, est trop grand. Trop grand pour la feuille de papier, trop grand pour le Québec, qui peut contenir quatre Frances. C'est fou, hein ? Trop grand pour le monde, un cœur immense que les cieux des cieux ne peuvent contenir. Et quelle bénédiction que de savoir que ce cœur de Dieu bat pour nous ce soir. Et parce que Dieu est un cœur, il a besoin que nous l'aimions en retour. Dieu est un père. Je suis père. J'ai eu des enfants. Et j'ai besoin de l'amour de mes enfants. Un cœur a vocation d'aimer, c'est clair. Mais si un cœur qui aime n'est pas aimé en retour, ben il est triste. Et il me semble que le cœur de Dieu est triste au regard de ces foules qui se comptent aujourd'hui par milliards, bientôt 5 milliards, qui vivent comme s'ils n'existaient pas, ou qui se contentent comme cela, d'adhérer intellectuellement ou sentimentalement à des formes religieuses qui ne leur accordent pas une relation personnelle et vivante avec lui. Dieu donc veut que nous l'aimions en retour et pas n'importe comment. D'un amour de premier plan. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de quelle manière ? De tout ton cœur. Faisons le détail quelques instants. De tout ton cœur. Le cœur passe généralement pour être le siège de nos sentiments. En d'autres termes, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tous ces sentiments que nourrissent ton cœur. Dieu voudrait que notre cœur batte pour lui. En retour, pour qui bat-il notre cœur ? ce soir, puisque le sien bat pour nous. Et puis ensuite, de toute ton âme. L'âme, c'est quoi ? Il y a souvent confusion, et surtout c'est chez les témoins de Jéhovah, entre le sang et l'âme. Ces témoins de Jéhovah pensant que l'âme, c'est le sang, ce liquide nourricier de nos cellules, de couleur rouge. L'âme n'est pas le sang. L'âme, c'est le sang personnalisé. Je m'explique. Il est parfois très courant qu'on dise d'un tel, par exemple, qu'il est de sang froid. Vous le dites, cela ? Bien, vous pourriez prendre la température de cet homme et vous verriez qu'elle est exactement la même, s'il était en bonne santé, que celle d'un homme de sang chaud. On peut dire d'un autre tel, il a le sang chaud, et en parlant de cette manière-là, on ne parle plus du liquide rouge, on parle du tempérament. On parle de la personne, de la personnalité. Et le sang ainsi personnalisé devient l'âme. Mais l'âme n'est pas le sang physique. On dit aussi de quelqu'un qui peut-être n'a pas de personnalité, ou s'il a une personnalité délavée, on peut dire de cet autre tel, celui-là, il n'a pas de sang dans les veines. Heureusement qu'il en a, vous avez l'expression ? Nous en France, on ajoute, il a du jus de navet. Mais, heureusement qu'il a aussi du sang. D'un autre tel, on peut encore dire, il se fait du mauvais sang. Vous prenez son sang, vous le portez en laboratoire, et vous dites au laborantin, veuillez chercher les soucis de cet homme dans son sang, mais vous ne les trouverez pas. La Bible parle de la voix du sang, le sang parle. Oh, tout ceci personnalise le sang, et le sang ainsi personnalisé devient l'âme. Mais l'âme n'est pas le sang physique, ce liquide nourricier qui coule dans nos veines. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, c'est-à-dire de tout ce qui t'anime. Pour comprendre ce que l'âme signifie, il faut en venir au latin, et pour autant qu'ils m'en souviennent, j'ai appris, alors que j'étais au lycée, que le mot âme en français vient du latin anima, ou du verbe latin animare, qui signifie animer, parce que l'âme, c'est ce qui nous anime. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ce qui t'anime. C'est ainsi que nous l'aimons. Et puis encore, tu l'aimeras de toute ta pensée. De toute ta pensée ? La pensée est généralement synonyme d'intelligence. En d'autres termes, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta tête. Dieu ne veut pas qu'il y ait divorce entre le cœur et la tête, ou bien encore, comme disent nos théologiens, dichotomie entre le cœur et la tête. Dieu veut que nous l'aimions de tout notre cœur, mais aussi de toute notre intelligence, de tout notre génie, que nous mettions toute notre intelligence à lui montrer que nous l'aimons. Et puis encore, tu l'aimeras de toute ta force physique, ton énergie physique. Eh bien, tu manifesteras que tu aimes ton Dieu en la mettant à son service. Est-ce ainsi que nous aimons Dieu ? Dieu donc veut être aimé d'un amour de premier plan. Et tout notre être est concerné par l'amour que nous devons lui vouer. Mais comment l'aimer de cette manière-là ? Ô Dieu, donne toujours ce qu'il ordonne. Si Dieu nous demande de l'aimer ainsi, eh bien, du même coup, il nous en donne les moyens. Et nous pouvons compter sur lui pour l'aimer de cette façon-là, parce que de nous-mêmes, nous ne pourrons jamais l'aimer ainsi. Et c'est en l'aimant ainsi, précisément, que Dieu prend chez nous la première place. Et c'est ce que nous aimons le plus qui tient chez nous cette première place. Et puis aussi, c'est ce que nous aimons le plus que nous adorons. Adorer, c'est aimer au plus haut point. L'adoration étant un jaillissement d'amour du fond de notre cœur vers Dieu. Adorer, c'est être ravi en amour auprès du Seigneur pour lui dire toute notre reconnaissance. Est-ce que nous l'aimons de cette façon-là? Il y a tant de choses qui prennent chez nous la place qui revient à Dieu. Je me souviens au terme d'une réunion à la convention de Guebwiller, il y a peu de temps, de la Ligue pour la lecture de la Bible en France, une jeune fille était venue vers moi pour me dire, à la suite de ce message Alain Choiquier, « Je suis reprise. Pourquoi, mademoiselle ?»« Simplement que j'adore le chocolat. » Et en effet, elle grignotait du chocolat constamment. Elle grignotait du chocolat pendant les réunions, elle grignotait du chocolat pendant les activités de la journée, elle grignotait du chocolat constamment. Alors je lui ai dit, mademoiselle, attention, vous risquez de finir chocolat. Je ne sais pas si vous avez cette expression, mais en tout cas, le chocolat chez vous prend la place de Dieu. Il n'est pas interdit de manger du chocolat, mais accordez au chocolat la place qui lui revient. Et puis, mettez Dieu à la première place dans votre vie, en ajoutant ce qui suit. Le premier amour est perdu toutes les fois où Dieu n'est pas le premier aimé dans notre vie. Très souvent, on entend dire, je pense qu'il y a peut-être quelque chose de vrai dans ces choses, que le premier amour était l'amour que nous éprouvions, que nous nourrissions à l'égard de Dieu au tout début de notre conversion. Mais en avançant au fil des années, au fil des jours, je suis persuadé que le premier amour, c'est davantage que cela. C'est aimer Dieu le premier, lui, dans notre vie. Le premier amour, c'est l'amour premier. Dieu est-il aimé le premier dans notre vie? Et toutes les fois où Dieu perd cette première place, nous avons perdu notre premier amour. Nous nous souvenons de ce que Jésus lui-même a dit à l'église d'Éphèse, en Apocalypse 2:4, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Dieu n'avait plus la première place dans le cœur de cette église. Le Christ n'avait plus la première place dans le cœur de ces chrétiens, d'où précisément cet avertissement du Seigneur. Lui aimait le premier. Et quel bonheur que de lui céder la première place. Dieu veut la première place dans nos cœurs. Il ne veut pas une autre place que la première. Et déjà dans l'Ancien Testament, il l'avait enseigné en ces termes. Nous connaissons le décalogue. Comment commence-t-il ? De qui Dieu parle-t-il en premier lieu dans le décalogue? De lui-même. Il parle très exactement de 4 domaines, de 4 choses. Il parle d'abord de lui-même. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Il parle donc d'abord de lui-même, parce que Dieu doit être en tête, le premier, aimé, le premier servi, sinon le reste ne peut pas suivre normalement. Ensuite, il parle du travail, de la famille et du prochain. Il parle des 4 choses de la vie nécessaires. Il parle des choses de la vie, mais la plupart du temps, nous, que faisons-nous? Nous mettons le travail en tête, la famille ensuite, le prochain, et en queue de liste, quand c'est vrai, ça n'est pas toujours vrai, Dieu lui-même ou une religion quelconque. Comment voulez-vous que les choses aillent normalement, qu'elles tournent normalement? Mais ça n'est pas possible quand Dieu n'est pas le premier dans une vie. Voilà pourquoi notre monde souffre au plan professionnel. Ces crises du travail viennent de là. Souvent, je prêche sur cette grande question du travail, du chômage, cette crise économique. Mais Dieu traite-t-il du travail dans les Saintes Écritures ? Mais certainement. Et nous devons approcher ce problème dans notre prédication. Mais avec le travail, puisque le travail est une institution de Dieu, Dieu a aussi donné les lois du travail. Le travail n'est pas une institution d'homme, c'est Dieu qui l'a institué. Et avec le travail, il a donné toute une série de lois. Mais ces hommes que nous sommes en révolte contre lui ne veulent rien faire et ne veulent surtout pas compter avec ces lois du travail que Dieu a instituées. Et qui sont énoncées dans les Saintes Écritures. Et avec la famille, c'est la même chose. C'est Dieu qui a institué le mariage en même temps que la famille. Et parce que précisément, nous ne voulons rien entendre des lois de la famille du mariage, nous sommes en pleine crise. Le mariage est en chute verticale, comme c'est le cas aussi chez vous au Québec. Dieu d'abord, mais est-il réellement le premier servi dans nos vies, le premier aimé ? Oh, l'amour premier, mon premier amour, Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons parler ainsi ? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais suffit-il de dire adieu au Christ que nous l'aimons pour que ce soit vrai et pour qu'il le croie ? Vous savez, il est tellement facile de dire « je t'aime ». Et la manière dont nous nous aimons couramment, Serge Gainsbourg, j'espère que vous n'en avez pas entendu parler ici, hein ? Non ? Si ? Un maudit français, hein ? Avec moi, hein ? On a parlé des maudits français. On est tous des petits maudits français. Dommage, hein, cher ami Bonicel. Lui a voulu exprimer l'amour que se portent les hommes de la manière suivante, et je crois qu'il a raison. Il dit qu'un homme a dit à quelqu'un d'autre « je t'aime » et l'autre lui a répondu « moi non plus ». C'est clair, hein ? C'est très clair. Suffit-il que nous disions à Dieu que nous l'aimons pour que ce soit vrai ? Pour qu'il le croie ? Certainement que non. Dieu a au moins trois tests pour évaluer, estimer l'amour que nous lui portons. Peut-être que ces trois tests vont nous déranger quelque peu, mais croyez que je serai le premier dérangé. Tandis que nous allons les passer rapidement en revue. Jésus a dit ce qui suit. En Jean 14, 21, 23, « Celui qui a mes commandements, c'est-à-dire ma parole, mes enseignements, et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. » Est-ce que nous gardons les commandements du Seigneur ? Est-ce que nous les aimons ? Est-ce que nous les serrons sur notre cœur ? Est-ce que nous aimons la parole de Dieu ? Est-ce qu'elle fait l'objet chez nous d'une méditation presque continuelle, jusqu'au niveau de notre inconscient ? Plutôt Jérémie a dit ce qui suit dans son livre au chapitre 15 et au verset 16. Il dit à Dieu, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. En est-il ainsi ? Pour nous, très souvent, à regarder par exemple aux études bibliques que nous avons peut-être une fois la semaine, je suppose que vos églises en ont, à ces études bibliques où la plupart du temps, peu de personnes sont là, Dieu ayant qualifié des hommes pour nous l'expliquer, nous l'enseigner, puis nous ne sommes pas là. Que nous pouvons dire que nous aimons Dieu quand nous ne nous précipitons pas aux études bibliques chaque semaine de notre Église. Parce que cette parole de Dieu nous fait connaître, elle nous révèle la personne de Jésus-Christ, la personne de Dieu. Les lettres de Jeanne me faisaient connaître Jeanne dans sa vie de tous les jours. Moi aussi, et je l'ai dit dans certains messages donnés ici au Québec, en même temps qu'en France et un peu partout, nous recevions chacun, chaque jour, une lettre, et nos lettres se croisaient au-dessus de la Méditerranée, de la mer Méditerranée. Et dès qu'Alain Chouaquier avait en main les lettres de sa Jeanne, il allait vite dans sa chambre, et puis il commençait de les ouvrir rapidement et de les lire. Je les lisais, je les relisais, ces lettres. Je les dévorais, littéralement, sans toutefois, bien sûr, avaler le papier, vous l'avez compris. Et pourquoi cela? Simplement que les lettres de Jeanne me donnaient de la connaître davantage, parce que dans ces lettres, elle me parlait de quoi? De son travail, de sa famille, de l'Église, elle me parlait de toutes sortes de choses. Alors j'aimais les lettres de Jeanne, parce qu'aimant Jeanne, j'aimais son courrier. Mais puisque nous aimons Dieu, sa parole devrait réellement nous intéresser au plus haut point. Premier test. Alors, je suppose que nous allons reprendre une lecture suivie des Saintes Écritures pour nous-mêmes, et puis fréquenter l'étude biblique, sauf évidemment empêchement majeur, pour apprendre à connaître Jésus-Christ et ce Dieu qui est l'amour dans sa personne. Deuxième test. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, comme on dit en France, c'est du baratin. Vous ne comprenez pas, je le vois. Ceci veut dire « ça n'est pas vrai ». Ce sont des blagues. Et pourquoi cela? Simplement que... Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, dit Jean, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Le frère, où le trouvons-nous, la sœur, dans l'Église? Ceci est un encouragement à aimer notre Église. Est-ce que nous aimons notre Église, faite de frères, de sœurs? Ou bien y a-t-il dans notre Église des frères et des sœurs que nous ne pouvons pas voir en peinture? Alors que faisons-nous? Nous allons à l'église quand ça nous chante. Mais c'est grave cela. Et puis nous disons, nous aimons les frères, nous aimons Dieu, pardon. Le frère, il est dans l'église, lui. Oui, mais Alain Chouaquier, si vous saviez, mon église, elle n'est pas du tout parfaite. L'église parfaite, où est-elle sur la surface de la terre? Oh, Billy Graham nous a dit quelque chose il y a peu de temps. En France, il y a des chrétiens, et a-t-il dit, qui cherchent l'église parfaite. Alors ils butinent, ils courent d'une église à l'autre. Puis ensuite, enfin, ils ont trouvé l'église parfaite. Et Billy Graham dit à ces chrétiens, à la recherche d'une église parfaite, le jour où vous l'aurez trouvée, cette église parfaite, elle cessera d'être parfaite à partir du moment où vous y serez dans cette église. Ouh, vous trouvez ça beau, hein? Et cette église bien imparfaite, le Seigneur Jésus l'aime telle qu'elle est. Alors pourquoi ne pas l'aimer, nous, telle qu'elle est? Et savez-vous qu'elle est précieuse au Seigneur? L'église est ce que le Seigneur a de plus précieux sur cette terre. Elle est la prunelle de son œil. Ne lui faisons pas de mal à notre église locale. Hein? Chacun appartient à une église de l'Union, là, une église locale. Ne faisons pas de mal à notre église. Elle est la prunelle de l'œil du Seigneur. Hein? Parce que son épouse, sa fiancée, vous savez, je vous ai parlé de ma Jeanne, hein? Surtout n'y touchez pas. Mais il en est ainsi de l'Église. Et que de chrétiens font tellement de tort à l'Église en la jugeant, la critiquant, alors que nous avons vocation de l'aimer. Et puis, Jésus a rappelé ce commandement qui dit que nous devons aimer notre prochain pour manifester que nous aimons vraiment Dieu. Et notre prochain, lui, c'est le collègue de travail, c'est le voisin, etc. C'est l'homme que nous rencontrons couramment dans le métro ailleurs. Tu l'aimeras lui aussi comme toi-même. Tu aimeras aussi l'étranger dans tes portes, et je sais que vous en avez des étrangers. Nous en avons beaucoup en France. Et pourquoi ? Parce que Dieu dit dans sa parole au livre du Deutéronome, l'Éternel aime l'étranger. Et puis, Jésus nous a demandé d'aimer jusqu'à nos ennemis. Oh, quelle merveilleuse vocation qui nous est adressée que celle d'aimer encore et d'aimer toujours. Nous avons vocation d'aimer. Je trouve cela extraordinaire et souvent nous ne l'avons pas saisi. Troisième test. L'amour se prouve par le don. Le don étant produit par l'amour, l'amour donne et se donne. Ainsi pouvons-nous lire, par exemple, « Nous avons connu l'amour », 1 Jean 3,16. « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie. » Qui c'est la suite ? Pour les frères. Est-ce que vous avez donné votre vie à vos frères dans l'Église ? Le Seigneur le voudrait. Le Seigneur le voudrait. L'amour donc se mesure par le don. Je dirais mieux que cela. Jésus nous enseigne la véritable mesure de l'amour en Luc 21, à partir du verset 1er. À l'issue d'un service religieux, les 13, Jésus et les disciples, étaient allés vers la sortie pour regarder les gens mettre dans le tronc. Alors, je suppose que les gens devaient être un peu gênés en regardant Jésus et les disciples là, devant eux, les observant dans ce qu'ils mettaient dans le tronc. Et à la lumière de quelques évangiles, nous pouvons savoir que certains avaient mis beaucoup, d'autres plus modestement. Et quand une pauvre veuve s'est présentée à son tour avec 2 petites pièces, toute sa fortune. Et en mettant dans ce tronc-là, Jésus l'a pointé du doigt en disant à ses disciples, « Regardez donc à cette pauvre femme, c'est elle qui a mis le plus. » Tiens, j'imagine ce qui a pu passer par la tête de Pierre, par exemple, ou des disciples. Ils ont dû penser, le maître est fatigué. Il a besoin de repos. N'a-t-il pas vu tous les autres mettre ces énormes pièces qui sont tombées dans un bruit terrible ? Comment dit-il que c'est elle qui a tout mis ? Attention, Jésus d'ajouter, elle a tout donné. Au fond, Jésus n'avait pas tant regardé à ce que les gens avaient mis. À quoi avait-il regardé ? À ce qu'ils avaient gardé pour eux après avoir donné. Oh, mes amis, ça c'est une mesure de l'amour qui ne trompe pas. Qu'avons-nous gardé pour nous après avoir donné ? Mais pas simplement dans les questions financières, mais dans les questions du temps que nous donnons à Dieu. Que gardons-nous pour nous-mêmes ? Dans toutes les questions. Je me souviens de cette dame qui, dans notre église un jour, a raconté l'histoire suivante. Sitôt en main le salaire de son mari était payé à la semaine en ce temps-là, un peu comme c'est le cas chez vous, parce qu'à présent, les salaires sont toujours mensuels en France. Alors, au reçu du salaire de son mari, elle avait l'habitude de faire 2 enveloppes. Une enveloppe, celle de la dîme, et l'autre pour vivre la semaine. Et cette semaine-là, le Seigneur avait brouillé les cartes, plus exactement les enveloppes. Pensant prendre l'enveloppe de la dîme, elle était allée au culte alors qu'elle avait en main, et dans son sac plutôt, l'enveloppe pour vivre la semaine. Et une fois bien sûr au culte, de la mettre généreusement dans l'offrande, mais c'est une fois rentrée à la maison qu'elle s'aperçut de son erreur. Désolée, elle était allée vers son mari. « Chérie, J'ai mis l'enveloppe de la semaine dans le tronc. Nous allons devoir nous débrouiller avec la dîme. Alors, dois-je aller voir le trésorier, a-t-elle dit à son mari, pour lui expliquer notre erreur ? Nous n'en sortirons pas. Son mari de lui dire, non, l'argent est donné, il restera dans la caisse de l'église. Nous allons nous débrouiller avec la dîme et puis prions ensemble pour présenter cette situation critique au Seigneur. Et tandis qu'il priait, le Seigneur les a convaincus d'une chose, laquelle la suivante. C'est comme si le Seigneur leur avait dit, ils n'ont rien entendu, mais c'est comme si le Seigneur leur avait dit, jusqu'à ce dimanche, régulièrement, vous me donniez la dîme, vous gardiez le reste. Aujourd'hui, c'est moi qui vous donne la dîme, je prends le reste. Mais quelle leçon ! Et à partir de là, ils ont compris que la dîme était un point de repère, mais que la dîme faisait partie de l'ombre des choses à venir. Une institution de Dieu, évidemment, une indication de Dieu pour des cœurs qui n'étaient pas régénérés dans l'Ancien Testament, et qu'en tant que enfant de Dieu, il devait reconsidérer cette question financière. Et Dieu les a bénis après coup. Alors au fond, Dieu, je pensais à une chose. J'eus souhaité que l'offrande se fît après le message. Elle aurait peut-être doublé, hein ? Oh, Dieu veut que nous l'aimions de tout notre cœur. Et il voudrait que nous lui donnions tout. Tout, bien sûr, que Dieu sait qu'il nous faut de quoi vivre au plan financier, au plan matériel, il sait toutes ces choses. Mais chacun avec lui, nous pouvons étudier au plan de notre temps, de notre argent, ce que nous avons à lui donner. Oh, j'aimerais que nous fassions tous comme un certain François Coillard, qui a été grand missionnaire. On rapporte que ce François Coillard des missions de Paris, un jour s'était trouvé dans une réunion où l'on ramassait une offrande missionnaire. Oh, ce François Coillard, qui est un Français. Ce François Coillard, brûlé pour l'Évangile. Alors qu'il se trouvait dans cette réunion missionnaire, et pour cette offrande missionnaire, il cherchait à se donner complètement à Dieu. Il ne savait pas de quelle manière le manifester. Ça brûlait dans son cœur. Et on avait fait passer pour l'occasion, pour cette offrande, un plateau. Quand le plateau arriva devant François Coillard, François Coillard le regarda, ce plateau, et demanda à celui qui le lui présentait, « Monsieur, mettez-le par terre. » Celui qui présentait le plateau, qui était un plateau assez important, tout étonné, peut-être se posait-il la question, mais il a un tel magot à mettre dans le plateau que je n'aurais sûrement pas la force de le porter. Pourquoi le mettre par terre ? Toutes sortes de choses ont pu passer par la tête de notre ami là, présentant le plateau. François Coillard avait autre chose à l'esprit et surtout au cœur. Mettez le plateau par terre. Et quand le plateau a été par terre, François Coillard s'est mis dans le plateau. Oh, mais que j'ai aimé ça. Et c'est à partir de là que François Coillard est devenu ce serviteur que nous savons, missionnaire des missions de Paris, pour porter l'Évangile aux extrémités de la terre. Je vous pose une question. Est-ce que vous avez mis votre vie dans le plateau du Seigneur ? En offrande ? Ne voudriez-vous pas, ce soir, au terme de cette journée, et surtout de cette assemblée annuelle, dire au Seigneur, « Ô Seigneur, je fais de ma vie une offrande que je veux mettre dans ton plateau. » Et puis tu pourras faire de cette offrande d'amour ce que tu voudras. Est-ce que nous sommes prêts à offrir nos vies ainsi au Seigneur? Mais peut-être avez-vous envie de me dire, mais Alain Joaquet, moi je ne suis pas destiné au ministère pastoral. Peu importe, vous mettez votre vie dans le plateau du Seigneur. Il y a peut-être ici un jeune qui est appelé par Christ pour se former d'abord, ensuite pour le servir, afin de remplir les bancs du CT. Une vraie vocation, un véritable appel. Jeune homme, jeune fille, mettez vos vies dans le plateau du Seigneur. Mettez vos vies dans le plateau du Seigneur en couple. Vous êtes fiancés, quelques rares mains se sont levées. Vous mettez vos vies dans le plateau du Seigneur ensemble. Vous êtes fiancés, vous le faites dès à présent. Seigneur, voilà ma vie. Je te la livre en offrande et j'aimerais vous en donner une occasion. Nous allons verser tous dans un moment de silence, de recueillement. Et pour vous qui décidez d'offrir votre vie au Seigneur dans une offrande d'amour, vous la mettez dans le plateau du Seigneur. Vous priez d'abord, vous dites, Seigneur, pardon parce que tu n'es pas le premier aimé dans mon cœur, pardon. J'ai perdu mon premier amour. Je voudrais que tu retrouves cette première place. Seigneur, je viens dans la repentance, pardon. Tout chrétien que je suis. Et vous lui dites, Seigneur, ce soir je décide de t'offrir ma vie. Je fais don de ma vie. Entre tes mains, pour qu'elle t'appartienne tout entière. Seigneur, je mets ma vie dans ton plateau et tu feras de moi ce que bon te semblera, mais je décide de te donner ma vie, de te la consacrer. Que Dieu vous bénisse, n'oubliez pas de faire ce que je vous ai dit. Et gloire à Dieu pour cette assemblée annuelle qui se termine de cette manière-là, à la gloire de notre Dieu. N'oubliez donc pas d'écrire cette date dans votre Bible et de rencontrer votre pasteur, vos pasteurs respectifs. J'ai eu beaucoup de joie avec vous, je devrais vous quitter rapidement. Je vous salue tous comme cela, en bloc. Dieu voulant, à une prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.